Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, chers élèves, dans cet épître de Saint Paul, nous pouvons sentir vibrer toute son ardeur apostolique pour faire connaître au monde entier l'immense charité de Dieu. Et pourtant, en même temps, nous sentons que Saint Paul, il a un peu de mal à s'exprimer pour décrire la grandeur de Dieu et de sa charité. Il doit utiliser un langage humain emprunté aux choses de la terre. Il parle de la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, en parlant de Dieu, alors que Dieu ne peut pas être mesuré comme on mesure un bâtiment dans sa longueur, sa largeur. Dieu est infini, et d'ailleurs c'est un pur esprit qui n'a pas de corps, donc on ne peut pas le mesurer. Mais alors, est-ce que ça veut dire qu'il est impossible de parler de Dieu avec nos paroles humaines? Non, bien sûr, sinon on ne pourrait pas faire du catéchisme. Justement, dans le catéchisme, nous disons souvent que Dieu est semblable à telle ou telle chose créée pour expliquer une de ses qualités. Par exemple, nous disons que le Saint-Esprit est semblable à un souffle, parce que le Saint-Esprit nous pousse parfois à faire une bonne action, tout comme le vent pousse un bateau. Nous disons aussi que dans le ciel, nous verrons toutes choses en Dieu comme dans une grande lumière. Et la Bible parle aussi du bras droit de Dieu pour signifier sa puissance. Et Dieu lui-même, en parlant à ses prophètes dans l'Ancien Testament, parlait ainsi. Par exemple, pour dire qu'il est le créateur et le maître du monde, il se compare à un potier qui fabrique les vases en argile. Et Jésus aussi enseignait toujours avec des paraboles, des images. Il s'appelait le bon pasteur qui prend soin de ses brebis. Il se compare même, une fois, à une mère poule qui protège ses petits sous ses ailes. Toutes ces images, ces comparaisons, sont comme des escabeaux ou des échelles qui nous aident à monter à des idées plus hautes encore. Le point de départ, en bas, ce sont des choses matérielles, des choses que nous connaissons bien parce que nous les voyons tous les jours. Et à partir de ces choses matérielles, nous pouvons comprendre quelque chose, un petit reflet du monde spirituel et invisible, un monde que nous connaissons beaucoup moins bien. Seulement, il faut juste nous rappeler une chose. Même quand il y a quelques ressemblances entre Dieu et ses créatures, parce que la créature garde toujours en lui quelques traces de son créateur, il y aura toujours quand même plus de différences que de ressemblance entre les choses spirituelles et les choses matérielles. Par exemple, quand Jésus dit que le royaume des cieux sera comme un festin ou un banquet, cela ne veut pas dire que nous allons passer notre ciel à boire et à manger. Ça deviendrait ennuyeux. Jésus parlait plutôt de la joie qu'on éprouve d'être en famille ou avec des amis lors d'un repas. Cette joie-là peut durer toujours sans jamais devenir ennuyeuse. Alors, pourquoi est-ce que nous parlons de tout cela aujourd'hui? C'est parce qu'il y a une image, un symbole qui nous enseigne beaucoup de choses sur Dieu et qui surpasse toutes les autres images. Et c'est ce que nous fêtons aujourd'hui, c'est le cœur sacré de Jésus. Le cœur sacré de Jésus. Qu'est-ce que le Sacré-Cœur nous enseigne sur Dieu? Alors, le cœur, tout le monde le sait, c'est le symbole de l'amour. Quand nous aimons quelque chose ou quelqu'un, nous le ressentons dans notre cœur. Notre cœur bat plus fort ou il se sent plus léger. Jésus nous montre son cœur, ce symbole de l'amour, ce symbole qui nous est familier. Tout le monde sait que le cœur, ça représente l'amour. Et ce symbole nous rappelle ce que nous éprouvons quand nous aimons dans notre cœur. Donc il montre son cœur pour nous dire que lui aussi, il sait aimer. Et non seulement comme homme, mais comme Dieu. Et même le Sacré-Cœur représente surtout son amour divin, éternel, infini. C'est un rappel visible de l'amour invisible de Dieu. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'amour de Dieu. On a écrit beaucoup de livres là-dessus. Et on pourrait dire beaucoup de choses aussi sur les leçons d'amour données par le Sacré-Cœur. Mais parlons aujourd'hui de l'amour de Dieu en général. C'est la chose la plus fondamentale. Et d'abord, une question se pose. Comment est-ce que Dieu peut aimer les hommes? Aimer quelqu'un, n'est-ce pas être attiré par lui? N'est-ce pas aller vers lui parce qu'on a trouvé en lui quelque chose de bien, quelque chose que nous n'avons pas? Comment Dieu peut-il aimer quelque chose en dehors de lui-même? Parce qu'il est Dieu. Il possède déjà, depuis toute l'éternité, tout bien, toute joie. Il ne lui manque rien. Nous l'avons dit tout à l'heure qu'entre Dieu et nous, il y a plus de différence que de ressemblance. Donc, d'un côté, son amour envers nous est un vrai amour qui le fait venir vers nous, tout comme notre amour nous fait aller vers ce que nous aimons, ou ceux que nous aimons. Mais de notre côté, sa manière d'aimer à lui est complètement différente que notre manière d'aimer. Notre amour nous fait aller vers quelque chose parce que nous avons vu du bien en cette chose ou dans cette personne. Quand nous aimons quelqu'un, c'est parce que nous avons remarqué qu'il est gentil, qu'il est intelligent, qu'il nous raconte des choses amusantes ou intéressantes. Mais l'amour de Dieu, c'est complètement l'inverse. Ce n'est pas parce qu'il nous a trouvés aimables que Dieu nous aime. C'est parce qu'il nous a aimés que nous devenons aimables à ses yeux. L'amour de Dieu crée le bien. C'est en aimant ses créatures que Dieu les fait exister. C'est un grand mystère, comment ça pourrait se passer. Mais si Dieu cessait d'aimer quelque chose, cette chose tomberait immédiatement dans le néant. Elle disparaîtrait. Cela veut dire donc que tout ce qui existe est aimé par Dieu. Tous les hommes et même les démons, non pas bien sûr en tant que démons, mais dans la mesure qu'il reste des purs esprits qui ont été créés par Dieu. Et même ces mauvais anges ajoutent quelque chose malgré eux à la perfection de l'univers et à la gloire du Créateur, en accomplissant leur juste punition en enfer. Autre conséquence de cet amour créateur de Dieu, si telle personne est meilleure que telle autre, c'est parce qu'elle a plus reçu, et elle a plus reçu parce qu'elle a été plus aimée. C'est encore un mystère. Dieu qui aime tous les hommes, qui donne toutes les grâces nécessaires pour que tous puissent se sauver, pourtant il aime certaines âmes plus que d'autres. La Sainte Vierge est meilleure que tous les autres saints parce qu'elle a été plus aimée de Dieu. Mais attention, personne ne doit s'enorgueillir s'il a quelque talent ou quelque qualité que les autres n'ont pas, ou s'il a fait plus de bien dans sa vie que d'autres, parce que tout, absolument tout, vient de l'amour de Dieu. Saint Paul le dit aux Corinthiens, « Qu'avez-vous que vous n'ayez reçu, et si vous l'avez reçu, pourquoi vous glorifiez-vous comme si vous ne l'aviez pas reçu ?» Donc maintenant, on comprend mieux certaines invocations dans les litanies du Sacré-Cœur. Dans les litanies du Sacré-Cœur, on appelle le Sacré-Cœur l'abîme de toutes les vertus. Nous disons qu'il contient tous les trésors de sagesse et de science. On dit qu'il est la source de la vie et de la sainteté, et que nous avons tous reçu de sa plénitude, etc. L'amour de Dieu représenté par le Sacré-Cœur est la source de tout le bien qui existe et qui existera jamais. Alors, pour conclure, quelle doit être notre réponse à cet amour de Dieu? C'est d'abord la gratitude. Vous connaissez le récit de l'apparition du Sacré-Cœur devant Sainte Marguerite Marie. Jésus est apparu, il montrait son cœur avec son doigt en disant « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui n'a reçu en retour que de l'ingratitude. » De l'ingratitude. Et puis il dit aussi que c'est surtout de la part des catholiques. C'est l'ingratitude de la part des catholiques qui fait le plus de mal, plus de peine à Jésus. L'amour de Dieu nous semble normal parce que nous sommes habitués à entendre cela depuis toujours. Et donc nous oublions de remercier. Mais il faut nous rappeler que la plupart des hommes qui vivent sur la terre, vraiment la majorité des hommes qui vivent sur la terre, ne connaissent pas que Dieu les aime. Les musulmans ne croient pas en l'amour de Dieu. Les bouddhistes, ils ne peuvent même pas imaginer un Dieu qui les aime, parce que dans leur fausse religion, inspirée par le démon, tout comme l'islam, ils essaient de bannir, de supprimer, oublier tout amour. Les athées, évidemment, ils ne croient pas en l'amour de Dieu parce qu'ils ne croient même pas en Dieu. Certains philosophes croient en un Dieu, mais un Dieu qui ne s'occupe pas des hommes. Puis les juifs et les protestants, ils ont une fausse idée de l'amour de Dieu. Les juifs le veulent seulement pour ceux de leur race. Les protestants, ils enlèvent à l'amour de Dieu tout son sens en éliminant le sacrifice. Donc c'est à nous de bien remercier Dieu de cette grande grâce de connaître son amour pour nous. Et puis ensuite, laissons-nous aimer par Dieu. Si l'amour de Dieu crée le bien en nous, si ceux qui sont plus aimés deviennent meilleurs, alors abandonnons-nous à l'amour de Dieu pour faire des progrès. Alors, concrètement, comment faire? Le meilleur moyen, c'est de répéter sans cesse pendant la journée des invocations au Sacré-Cœur de Jésus. Donc, Cœur Sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. Nous le savons, mais nous n'y pensons pas assez et nous n'y penserons jamais assez, justement. Chaque invocation appelle sur nous l'amour de Dieu comme une pluie bienfaisante qui nous sanctifie. Donc quand nous arriverons à remplir notre journée avec ces invocations au Sacré-Cœur de Jésus, alors et alors seulement nous commencerons vraiment à rendre amour pour amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.